sont extrêmes. L'actualité asiatique, vue par les missions étrangères de Paris. Une émission présentée par Sébastien Flacourt.
Il me semble qu'à la première conscience qu'il aurait de lui-même, l'homme retomberait en poussière. Poussière du mercredi décembre que nous avons vécu la semaine dernière, poussière des chemins de campagne. Cette phrase introductive n'est pas de moi, évidemment, mais de Bernanos, auteur de « Journal d'un curé de campagne » paru en 1936. Dans ce roman, un jeune prêtre tout droit sorti du séminaire arrive avec pour seule force sa foi dans la petite paroisse d'Ambricourt, dans le nord de la France. Son journal décrit la misère d'une population à qui il doit prêcher et lui-même mourra à la fin d'un mal qu'il aura fait souffrir à l'estomac durant toute sa mission. Journal d'un curé de campagne donc, et nous avons un curé de campagne avec nous, non pas du nord de la France, mais du nord du Cambodge. Bonjour Père Francesco.
Bonjour.
Nous commençons le carême sur Orient Extrême dans la joie avec le Père Francesco, missionnaire des missions étrangères de Paris au Cambodge, où vous habitez, mon père, dans la campagne, dans un village d'un millier d'habitants. Votre mission au Cambodge, je vous demanderai d'aller décrire, s'il vous plaît, après notre revue d'actualité. Et nous retrouvons Louis Ducré, qui revient avec une petite sélection de l'actualité de l'Église d'Asie. Bonjour Louis.
Bonjour Sébastien.
Comme vous le savez, chers auditeurs, ces informations proviennent d'Église d'Asie, l'agence d'information des missions étrangères de Paris. Et nous commençons avec le Nouvel An chinois à Paris.
Le dimanche 11 février, une messe multilingue a été organisée à Paris pour le Nouvel An asiatique, sous la présidence de Mgr François Gonon, vicaire général de l'archidiocèse, réunissant les fidèles de Notre-Dame de Chine et du groupe vietnamien de la paroisse Saint-Hippolyte. Le père Paul Han, recteur de la paroisse Notre-Dame de Chine, a partagé son expérience et sa vision de cette communauté florissante située à proximité de l'église Saint-Hippolyte dans le 13e arrondissement de Paris. Cette enclave paroissiale est principalement composée de fidèles d'origine chinoise et d'autres pays asiatiques tels que le Cambodge et le Vietnam. Malgré leurs origines variées, ces paroissiens forment une communauté soudée qui se réunit chaque dimanche pour la messe, où environ 260 fidèles se retrouvent. Les temps forts liturgiques, comme les messes de minuit et les célébrations du Nouvel An chinois, sont des moments de grande affluence rassemblant jusqu'à 750 paroissiens. Sur le plan culturel, le Nouvel An chinois revêt une importance particulière. Les lanternes rouges ornant l'église symbolisent la joie et la festivité. Pour les fidèles chinois, c'est l'occasion de se retrouver en famille, de célébrer ensemble et de rendre grâce pour les bénédictions passées tout en confiant l'avenir à la grâce divine. La messe du Nouvel An est suivie d'un culte des ancêtres où les fidèles rendent hommage à leurs aïeux et prient pour le repos de leur âme. Cette tradition, empreinte de piété filiale, souligne la connexion profonde entre la foi chrétienne et les valeurs culturelles asiatiques. Pour de nombreux paroissiens, la communauté catholique chinoise de Notre-Dame de Chine représente bien plus qu'un lieu de culte. C'est un refuge spirituel où ils peuvent se sentir enracinés dans leur foi, tout en maintenant un lien précieux avec leur culture d'origine. Même après s'être habillés en France de manière permanente, ils trouvent dans cette communauté une source de réconfort et de soutien.
Et Louis, vous revenez sur les élections en Indonésie.
Les évêques indonésiens ont émis un appel pressant à la participation active des catholiques aux élections nationales qui se sont déroulées le mercredi 14 février dans ce pays majoritairement musulman. Dans leur missive, les évêques ont souligné la nécessité pour les catholiques de ne pas négliger leurs responsabilités civiques, même dans un contexte où certaines inquiétudes subsistent quant à l'intégrité des élections, craignant des manipulations de la part des autorités. Le fait que les élections coïncident avec le mercredi des cendres, marquant le début du carême pour les catholiques, ouvre une réflexion particulière sur le lien entre engagement religieux et participation civique. Mgr Petrus Mandagi, évêque de Merauke dans la province de Papouasie du Sud, a souligné l'impératif pour les catholiques de remplir leur devoir électoral en les exhortant à voter dans les esprits des principes fondamentaux de la nation. De même, il a aussi souligné l'importance des élections en tant qu'événement majeur pour la démocratie indonésienne, appelant à les accueillir avec joie et à exercer son droit de vote avec discernement. Ce message est également relayé par les membres de la communauté catholique qui voient dans cet engagement une manière concrète de témoigner de leur foi et de contribuer au bien commun.
Merci Louis Ducré. Et nous retournons au Père Francesco Dinsner, notre curé de campagne du Cambodge. Alors, pour nos auditeurs, qui êtes-vous, mon père ?
Bien, je suis le Père Francesco, originaire du diocèse de Meaux. Je suis en mission au Cambodge depuis 6 ans, au nord-ouest du Cambodge, au nord de Battambang, pas très loin de la frontière thaïlandaise, dans un petit village au milieu des rizières.
6 ans sans raclette et sans galette des rois, qui faites-vous dans ce village ?
Eh bien, j'ai été nommé il y a plus de 2 ans comme curé de cette paroisse, de ce petit village. Je suis le premier prêtre à résider sur place. Avant, il y avait seulement la messe le dimanche. Et je passe mon temps à visiter les personnes, à travailler, à célébrer les offices, la messe, à prendre soin des malades, à visiter les personnes âgées, à aussi à prendre soin de l'éducation des enfants, des plus petits. Nous avons une école maternelle. Nous avons également un foyer pour garçons, notamment pour les garçons qui viennent de zones éloignées où il n'y a pas d'école. Des zones où il y a des forêts, des zones où on défriche pour les cultures. Donc les parents sont partis, les enfants restent souvent à la maison ou partent avec les parents. Et la plupart du temps, ils n'ont pas accès à l'éducation. Donc nous avons monté ce petit foyer il y a plusieurs années pour accueillir ces garçons.
Votre paroisse n'a rien à voir avec celle d'Ambricourt dans le journal d'un curé de campagne. Mais je voulais vous demander comment se porte votre communauté. Vous êtes ici en repos en France avant de repartir là-bas. Comment évolue cette communauté ?
Eh bien, cette communauté a été fondée il y a une trentaine d'années. Ce sont des personnes qui viennent des camps de réfugiés, sont arrivées dans cette zone où il n'y avait que de la forêt, quelques rizières en friche. Et ils ont commencé à débroussailler, à construire des maisons. Et parmi ce groupe de réfugiés, il y avait deux chrétiens, deux chrétiennes plus précisément. Et ces femmes ont demandé aux prêtres, qui étaient alors à Battambang, de venir les visiter. Et la communauté a commencé ainsi, à partir de ces deux femmes qui avaient vraiment la foi chevillée au corps. Elles ont pu être pour le reste du village vraiment des témoins de la foi. Et c'est ainsi qu'a commencé l'aventure dans ce petit village, à Tompung. Au départ, il n'y avait donc que ces deux personnes. Et au fil des années, la communauté a grandi, notamment grâce aux témoignages que donnaient ces premiers chrétiens. Puis il y a eu la construction de la... Au départ, les messes étaient célébrées chez les gens. Et puis nous avons construit une première église qui ressemblait fort à une maison cambodgienne sur pilotis. Le nombre de chrétiens s'accroissant, nous avons décidé de construire il y a une vingtaine d'années une grande église, d'acheter un terrain pour construire cette église et puis d'ouvrir une petite école maternelle puisqu'il n'y avait pas d'école maternelle sur place. Par la suite, la communauté a continué à grandir et au fil des ans, comme dans beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est, au début du XXIe siècle, eh bien, beaucoup de nos chrétiens, notamment, sont partis pour travailler en ville, en Thaïlande. Donc aujourd'hui, la réalité de la paroisse, qui s'appelle Sainte-Marie-Mère de Dieu, c'est une petite communauté chrétienne, environ d'une cinquantaine de personnes, la majorité des chrétiens du village étant à l'extérieur du village, pour le travail. Il y a également beaucoup d'enfants, il y a plus de 40 enfants au catéchisme. Donc le dimanche, j'ai une assemblée assez disparate, il y a quelques chrétiens et beaucoup de non-chrétiens qui viennent et qui recevront le baptême, puisque la plupart sont des enfants, à l'âge adulte. Donc voilà la réalité de ce petit village au milieu des rizières. Une communauté, avec des personnes âgées et puis des enfants. Et puis les gens de ma génération, on va dire entre 25 et 50 ans, eh bien, ils sont soit au travail des champs, de la rizière, soit à l'étranger pour travailler, ou en ville, notamment dans la capitale, Phnom Penh.
Louis Ducret.
Francesco, vous êtes missionnaire, j'aimerais vous poser une question plus personnelle. On sait qu'un missionnaire doit aimer la culture qui l'accueille. Est-ce que ça a été facile pour vous de vous plonger dans cette culture cambodgienne ? Et maintenant que vous y avez passé plusieurs années, est-ce que vous vous sentez de plus en plus cambodgien, ou au contraire, c'est à certains égards de plus en plus difficile ?
Eh bien, au début de ma mission, le plus difficile a été l'apprentissage de la langue. Et c'est seulement la langue qui permet l'accès véritable à la culture du pays. On a beau lire des livres en français sur l'histoire du Cambodge, sur la religion bouddhiste. Si on n'apprend pas la langue, si on ne passe pas par l'alphabet cambodgien, si on ne passe pas du temps dans les villages, au rythme des saisons, au rythme des fêtes cambodgiennes, on passe à côté de ce peuple, de sa grande culture. Donc il faut nécessairement passer par la langue pour comprendre le Cambodge.
Et on sait que le catholicisme souvent s'adapte à certaines cultures. Qu'est-ce qui différencierait le catholicisme français du cambodgien ? Est-ce qu'il y a une tonalité plus particulière dans certains domaines de la foi ? Ou dans la manière dont c'est vécu, comme par exemple le rapport aux ancêtres ou...
Bah, je dirais qu'en France comme au Cambodge, la place des morts est assez importante, puisqu'en France on prie également pour les défunts, notamment après la Toussaint. Mais au Cambodge, c'est vrai que ça revêt une place particulière du fait du bouddhisme, premièrement, puisque dans le bouddhisme, vous savez qu'on se réincarne, et donc même chez nos chrétiens, il y a ce fond-là qui est derrière. Et il y a aussi une différence qui me paraît capitale. La France est un pays qui a plus de 1500 ans d'histoire chrétienne, qui a été façonné par le christianisme. Au Cambodge, ce n'est pas le cas. Ma communauté, comme je vous l'ai dit, a à peine 30 ans, un peu plus d'une trentaine d'années. Le catholicisme est une nouveauté au Cambodge. Le Christ est nouveau au Cambodge, même si nous sommes là depuis plusieurs siècles. L'histoire du pays, l'histoire de nos communautés chrétiennes, fait que finalement, le catholicisme est toujours une nouveauté au Cambodge, notamment dans ces petites communautés que nous avons créées à partir des années 90.
Nous allons continuer cet entretien, mais je vous propose avant tout une petite pause en écoutant ce chant de Thésée bien connu, « Bless the Lord, my soul », mais cette fois-ci en Khmer. Ce chant de Thésée bien connu, Bless the Lord, my soul, mais en Khmer cette fois-ci. Et nous retrouvons le père Francesco Dinsner, notre curé de campagne du Cambodge. Et puis Louis Ducré, vous aviez une question pour le père Francesco.
Au Cambodge, c'est évidemment la religion bouddhiste qui est majoritaire. Quelle place pour le dialogue entre le bouddhisme et le catholicisme ? Est-ce que c'est une indifférence ? Est-ce que c'est du déni ? Est-ce que c'est un intérêt mutuel ?
Eh bien, dans la plupart des paroisses, des communautés où nous sommes présents, nous, les missionnaires, nous avons toujours des rapports très courtois avec les moines de la pagode, avec les bonzes. En général, le dialogue se passe assez bien. Nous n'avons pas vraiment de débat sur le fond de nos religions, sur la foi à proprement parler ou sur la doctrine, mais nous avons plutôt un dialogue sur nos vies, sur nos différentes vies, sur comment nous abordons l'existence, sur comment nous vivons au quotidien. Les questions sont souvent très concrètes. Qu'est-ce que l'on mange? Pourquoi nous nous engageons pour la vie? Là, je parle du dialogue entre bonzes et prêtres, puisque les bonzes, en général, ne sont pas bonzes pour la vie, mais pour quelques années, et ensuite se marient. Ensuite, le dialogue se passe dans les familles, entre les chrétiens et les bouddhistes, puisqu'au sein d'une même famille, vous avez souvent un ou deux chrétiens, et puis le reste de la famille est bouddhiste. Et donc, le dialogue se passe à l'intérieur de ces familles également, parfois avec quelques incompréhensions, notamment au début. Mais ensuite, voyant que les catholiques ne rejettent pas le bouddhisme, enfin, n'accusent pas le bouddhisme d'être une religion dévoyée ou conduisant au mal, eh bien, un dialogue est possible et nous respectons, bien sûr, nos frères bouddhistes au Cambodge et les chrétiens également, les chrétiens cambodgiens respectent leurs frères bouddhistes et nous avons à cœur tous les ans d'organiser des rencontres avec les bonzes.
On lisait en en-tête du mensuel des missions étrangères d'il y a 3 mois une réflexion sur l'acculturation de la religion catholique au Cambodge. Quelle est la juste adaptation de la pratique catholique aux représentations cambodgiennes?
Alors, en fait, le mot « inculturation » lui-même est un peu biaisé parce que c'est un peu un mot fourre-tout. Et souvent, on confond, on met beaucoup de choses derrière ce mot « inculturation ». Donc, que ce soit très clair... le christianisme ne rejette aucune culture, le Christ ne rejette aucune culture, pourvu que ses valeurs, que ses traditions ne soient pas contraires à l'évangile. Je peux prendre un exemple, si dans une religion il y a des sacrifices humains, évidemment que le christianisme ne va pas respecter cet aspect de la culture ou de la religion, c'est évident. Il y en est de même pour tout ce qui, pour les appels à la violence qui pourraient être présents dans certaines religions. Donc pour nous, il n'y a dans la culture khmer vraiment beaucoup de choses à accueillir et qui nous révèlent aussi le visage du Christ. Il nous aide à mieux voir, à mieux comprendre ce visage du Christ qui se révèle à travers la culture khmer. Cela va passer par les chants, vous avez entendu. Cela va passer par la danse, cela va passer par l'art. Il y a une vraie recherche esthétique dans l'art au Cambodge, notamment dans l'art sacré. Pour représenter le Christ, pour construire des églises qui interrogent et qui parlent, qui ont les codes culturels du Cambodge. Nous ne sommes pas là pour importer la France, pour imposer la culture française, mais bien pour que le Christ, qui est d'abord le Messie d'Israël, se révèle dans la culture cambodgienne. Donc il y a à la fois un aspect universel, c'est ce que veut dire catholique, et il y a aussi un aspect particulier. C'est-à-dire que le Christ ne descend pas du ciel comme cela, mais il s'incarne véritablement à Nazareth, au sein du peuple juif. Il est le Messie de ce peuple. Et donc, il y a quelque chose, peut-être que nous avons oublié un peu en France, c'est cet aspect étranger du Christ, qui n'est pas un Jésus français, ni un Jésus cambodgien, mais qui est le Messie d'Israël.
Sur les pratiques culturelles, par exemple, Louis Ducré mentionnait dans l'actualité le culte des ancêtres. Pour ce qui est de la fête des morts, par exemple, le 1er novembre en France, comment cela se traduit et s'adapte avec le culte des ancêtres cambodgiens?
Eh bien, tous les ans en Cambodge, il y a la fête des morts. Cette fête est spécifique au Cambodge. Elle dure plusieurs jours. Et pendant ces différents jours, on dit que... le ciel et la terre se mêlent. L'eau et la terre se mêlent. C'est d'ailleurs la période où nous sommes inondés. Et donc, le monde des morts et le monde des vivants se mêlent. Ainsi, pendant ces quelques jours, le monde des morts est ouvert. Et donc, les âmes qui n'ont pas pu se réincarner, les âmes errantes, vont errer. Les Cambodgiens, ne sachant pas si leurs ancêtres sont des âmes errantes ou non, vont donc nourrir ces ancêtres, les honorer. Alors, il y a une logique de peur, c'est-à-dire qu'on a peur que l'ancêtre vienne nous hanter tant qu'il n'a pas le repos, et donc on va faire des offrandes. Il y a aussi une logique d'amour, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va honorer nos parents, ceux qui nous ont élevés, nos grands-parents que nous avons aimés. Donc il y a ces deux aspects dans cette fête des morts. Ce que nous avons décidé de faire au Cambodge, c'est de célébrer cette fête dans la culture khmère, à la date qui est choisie. Et donc, la messe des défunts, qui a lieu d'habitude après la Toussaint, après la fête de tous les saints, est célébrée au moment de la fête des morts, qui a lieu en général fin septembre, début octobre. Ainsi, nous allons, à cette occasion, prier pour les morts de toutes les familles, prier pour les ancêtres de nos chrétiens qui étaient bouddhistes, prier pour leurs âmes. Ça, c'est quelque chose qu'il est possible de faire dans nos églises. Et ainsi, nos chrétiens ne sont pas dépaysés. Ils sont à l'aise dans l'église puisque nous reprenons leur code culturel, puisque nous nous joignons quelque part à cette prière pour les défunts, à cette fête pour les morts.
Louis Ducret.
Père Francesco, le Cambodge a évidemment été marqué par cette terrible période des Khmers rouges et ce génocide. On se pose évidemment la question du pardon nécessaire pour la reconstruction d'une nation. Quelle place les catholiques ont-ils à jouer dans ce pardon et quelle place aussi peut-être pour le pardon chez les bouddhistes?
Alors bon, c'est une question qui mériterait une réponse assez longue. Mais effectivement, il faut un peu oublier ces notions de pardon. Alors au sein de l'Église, effectivement, il y a un travail de pardon à faire, mais nos communautés sont très jeunes. Souvent, les personnes qui ont vécu cette époque, beaucoup sont déjà mortes. Et donc, je peux témoigner de ce que j'ai vu. C'est-à-dire que dans un même village, vous pouvez avoir d'anciens Khmers rouges, mais qui étaient des enfants soldats à l'époque. Donc comment leur imputer la faute de ce génocide ? Beaucoup n'étaient pas conscients de ce qu'ils faisaient. Ensuite, sur la logique du pardon, il n'y a pas vraiment de pardon, puisqu'on va laisser au karma le soin de rendre justice. Il n'y a même pas de recherche de justice d'ailleurs, et l'idée du tribunal international pour juger les crimes du régime Khmer Rouge était très peu suivie par les Cambodgiens, n'était pas une idée cambodgienne d'ailleurs, mais était imposée par l'ONU, et ne passionnait pas les foules, puisque pour la majorité des Cambodgiens, ils obtiendront justice, puisque ces Khmers rouges, quand ils se réincarneront, en fonction de leur karma, des mauvaises actions qu'ils auront faites, auront une mauvaise réincarnation.
De là, est-ce qu'on peut dire que du coup, la notion de justice n'est pas du tout similaire entre Cambodge et France ?
Oui, on peut dire cela, et je signale aussi que dans le bouddhisme, il n'y a pas de pardon. Nous devons rendre compte de tous nos actes, bons et mauvais. Et donc, c'est comme une ardoise qui s'additionne. Et puis ensuite, à la fin, vous faites vos calculs, le nombre de bonnes actions, le nombre de mauvaises actions. S'il y a plus de bonnes actions, vous aurez une réincarnation meilleure, une seconde vie meilleure. Mais il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de sauveur, il n'y a personne qui vient dire « Je te pardonne, va en paix, ne pêche plus ». Cette parole n'existe pas dans le bouddhisme.
Nous entrons dans le carême, y compris à Tampung, au Cambodge. Est-ce que les pratiques sont aussi les mêmes ?
Les pratiques sont exactement les mêmes, c'est-à-dire le mercredi des cendres, qui est à la même date, et la semaine sainte, qui est célébrée au même moment. Sur le calendrier liturgique, les choses se passent de la même manière qu'en France.
Il y a un vieil adage, mon père, qui dit « Va au bout du monde, tu y trouveras des traces de Dieu, descends au fond de ton cœur, tu y trouveras Dieu, je vous vois faire des grands yeux. » Vous connaissez cet adage, qu'est-ce qui vous inspire ?
Eh bien, je crois que pour chaque missionnaire et chaque chrétien, effectivement, il y a un lieu secret, qui est le temple de l'Esprit-Saint au fond de nos cœurs, et que c'est là que Dieu veut résider en premier. Bien sûr, il est présent dans chaque église, dans le sacrement, dans le Saint-Sacrement, mais est aussi présent dans nos cœurs, ce qui permet d'emporter le Christ partout où nous allons et de porter sa parole partout également, puisque le Christ a bien voulu venir dans nos cœurs par l'Esprit-Saint. Voilà ce que je peux dire. Il est très important pour nous, les missionnaires, de bien rester attachés à cette présence qui habite en nos cœurs et qui fait de nous des témoins de l'Évangile et pas simplement des étrangers sur une terre lointaine qui apporte certes l'aide, le développement, mais avant tout des témoins de l'Évangile.
Merci Père Francesco d'être venu nous parler de votre pays de mission, le Cambodge. Nous prions pour vous et pour que votre mission porte tous les fruits que Dieu voudra bien lui faire porter. Quant à moi, chers auditeurs, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode d'Orient Extrême.